Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem Nase, Venasler, nous sommes aujourd'hui le 18, jeudi 18 février, Mouledet Samer, comme on le disait tout à l'heure, mon fils Eliwa Yakar, Shem Valchoto Bechol Asherlo, et le Vav du mois de Adar. Bezrat Hashem, ce soir, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu Zain Be'Adar, selon la Masoret. Bezrat Hashem, Itbarach, Veniske, Venir'e, Venishwat, Venerhamot. On parlera de Moshe Rabbeinu. J'avais prévu de parler de nos sages racontes aujourd'hui, mais on va parler de la Iloula de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et c'est une Iloula un peu particulière, comme celle de l'Iloula Navi Zachor Letov, puisque Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est sa sépulture. Donc avant de commencer ce shiur sur la biographie de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ce shiur a été acheté aujourd'hui par Sarah Rechia pour la Haskara de son grand-père Eliyahu Ben Chana. Zichrono Livracha, on a déjà donné le nom des malades, des gens qui sont niftarim, on pensera à tout le monde. Et comme je le disais tout à l'heure en tant que Sandak, je vous bénis tous autant que vous êtes. Bracha, Revacha, Vatzlacha, Bechol, Maseidechem, Shakol, Irak, Leshem, Shemaim, Lervodosh, El Kutcha, Berichou, Veniske, Lagdil, Torah, Le Adira, Betachlit, Shelrat, Shemaim. Donc, beaucoup de santé, beaucoup de parnassa, beaucoup de réussite sur tous vos chemins. Moshe Rabbeinu est un personnage unique. Unique, même si chaque juif est unique à l'image des empreintes digitales qui sont uniques chez chaque humain. Donc, chaque personne sur Terre a quelque chose d'unique en lui, fait partie d'une pièce, d'un puzzle universel sur le mishtar de l'humanité, sur le domaine de l'humanité. Donc on a tous quelque chose d'unique en nous, même si les Chinois se ressemblent tous, pour en blaguer, mais chaque Chinois aussi a une fonction, chaque personne qui naît a une existence. Moshe Rabbeinu n'est pas comme les autres. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, on dit que nul n'est irremplaçable, c'est vrai, et les cimetières sont là pour le prouver. La vie continue, même si c'est une personne qui était « waouh », la vie continue. Moshe Rabbeinu, dit le Harizal, loulé Moshe Rabbeinu, si ce n'était pas Moshe Rabbeinu qui nous avait fait sortir du pays d'Égypte, personne n'aurait pu le faire. La Gemara nous dit que, effectivement, Ezra Sofer aurait été digne, mais ça ne veut pas dire parce qu'il est digne qu'il aurait été celui qui aurait été choisi. Moshe est irremplaçable. Par rapport à des réincarnations, par rapport à des sphirot, Hod Venetzach, sur lesquelles Moshe se balade avec son frère Aaron, entre Hod Venetzach, il fait partie de quelque chose d'unique dans l'histoire. Et sa particularité a fait de lui, justement par rapport au premier cours qu'on vient de faire, le pourquoi de sa vie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif pendant un quart d'heure de la biographie de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Un petit récapitulatif très intéressant pour ceux qui veulent écouter Bezrat Hashem. Alors vous savez que Moshe Rabbeinu est né, selon une marloquette, à savoir le sixième mois de son hérayon, de sa grossesse, il y en a qui disent le neuvième mois. Il n'y a pas de savoir quand est-ce qu'il est venu au monde. Mais ce qu'il faut comprendre avant, c'est que la naissance et la conception de Moshe Rabbeinu vient d'un interdit de la Torah. C'est souvent comme ça, c'est quand ta femme est nida, qu'elle ovule après. Eh bien, là où le rocher existe, l'obscurité existe, eh bien la lumière vient. Et si vous posez la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu vient lui-même d'un interdit? C'est tout simplement parce qu'il venait naître dans la situation de l'état psychologique du peuple d'Israël. On était arrivé au 46e, à l'époque, degré d'impureté, jusqu'à ce qu'on ait atteint le 49e degré d'impureté. Et quel est cet interdit de la Torah qui a fait, en fin de compte, entacher la naissance de Moshe Rabbeinu, pour laquelle, Alpissod, il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, parce que Eretz Israël a été donné après le don de la Torah, Moshe avant le don de la Torah, et ça voulait faire un bug. Comme par exemple Yaakov qui a épousé deux sœurs à Haran et qui rentre en Eretz Israël. On voit que Rachel meurt dès qu'elle rentre en Eretz Israël parce que en Eretz Israël, par contre, c'est une terre qui est très très précieuse sur le domaine de la Torah et des Mitzvot parce que la terre d'Israël a été créée pour ça. Le ring sur lequel on offre toutes les Mitzvot de la Torah, dont 80% sont attachés à la terre d'Eretz Israël, c'est la terre d'Eretz Israël. Mais Rachel, pour cela, eh bien, Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il vient d'un interdit d'Eoraïta. C'est une des raisons, j'en connais 10 ou 12 pour lesquelles il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais une des raisons pour lesquelles il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, c'est tout simplement parce qu'il vient d'un interdit de la Torah. Et cet interdit de la Torah nous dit, dans les 613 Mitzvot de la Torah, que si un homme divorce de sa femme, que sa femme se marie avec un autre homme, dont elle divorcera, elle ne pourra pas épouser son premier mari. Et c'est exactement ce que va faire Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, va divorcer, comme va l'exiger à l'époque Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et donc va épouser un homme dont elle va tomber en plus enceinte. Et elle va avoir deux jumeaux qui vont naître de cette union, qui s'appellent Eldad et Medad, qui ne sont autres que les demi-frères de Moshe Rabbeinu, qu'on verra plus tard dans la Torah, les Itnabot, c'est-à-dire ils vont faire des prophéties en disant « Moshe met, Yoshua marnis ». Moshe meurt et c'est Yoshua qui rentrera les enfants d'Eretz Israël. Et pourquoi Dafka Eldad et Medad font-ils une telle prophétie en disant « Moshe meurt et Yoshua fait rentrer en Eretz Israël » Parce que justement, Eldad et Medad, eux, viennent d'une union cachère parce qu'elle a divorcé, elle s'est remariée 3 mois plus tard avec un autre homme sous les conseils de sa fille qui a dit à son père « Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu aies dit aux enfants d'Israël de divorcer parce qu'on jetait les premiers-nés à l'époque dans le Nil. » Donc, qu'est-ce qu'a dit Amram, chef du Sanhédrin? Il a dit « Si le décret du ciel que Dieu permet, c'est de tuer les enfants qui viennent au monde, à quoi ça sert de les amener au monde ?» Oui, les garçons, mais pas les filles, lui dit Myriam. Mais Dieu, il ne faut pas rentrer dans ses comptes. Nous, on fait ce qu'on a à faire et Dieu fait ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que va faire Yocheved, la mère de Myriam? Elle va écouter Myriam parce qu'elle sait que Myriam est prophétesse et donc va s'unir à un autre homme et elle va tomber enceinte. Comme ça l'explique le Sefer Imrechen, entre autres. Il y en a beaucoup qui l'expliquent, mais en tout cas le Sefer Imrechen, il explicite là-dessus. Et elle va tomber enceinte de deux jumeaux qui vont devenir deux prophètes plus tard et qui vont dire « Moshe meurt, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. » Pourquoi Dafka, ils viennent de cette union-là? Parce que Yocheved va divorcer du père de Eldad et Medad et réépouser, chose strictement interdite par la Torah, Amram, et là elle va tomber enceinte de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vient d'un état de naissance qui exprimait l'impureté dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël, et donc c'est pour ça que le Mashiach viendra ou sur un âne ou sur des nuages. C'est une allusion qui est faite sur où est-ce qu'on sera, est-ce qu'on se comportera dans la pureté du nuage ou est-ce qu'on sera aussi chamourim que des ânes, ces otachés là. Le Mashiach viendra sur le dos de ce que nous allons lui préparer comme piste d'atterrissage. Est-ce qu'on se préparera avec sérénité, en comprenant que stop avec nos bêtises, qu'il faut être Shomer Shabbat, qu'il faut arrêter de lutter contre la Torah constamment, de voir le monde de la Torah comme étant le parasite de la société, Chas v'shalom, Daim advarim ha'eleh. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas qui profitait un petit peu, qui se cachait derrière la Torah, mais c'est des unités. L'ensemble des gens sont des gens merveilleux. Abal, encore une fois, c'est un autre sujet. Velachen, Bisséata d'Ishmaïa, Moshe Rabbeinu est né. Certains disent à 6 mois et d'autres à 9 mois. C'est le même chiffre, juste un qu'à l'envers, l'autre qu'à l'endroit. De là, on apprend d'ailleurs qu'un enfant qui naît à 6 mois est solvable. Avant ça, c'est un Esivi, un Esgamour. Et il va être sevré, Baruch Hashem, par sa mère. Et puis être tout de suite emmené et déposé sur la Teva, dans une espèce de berceau en paille, avec du poids, pour recommémorer un tikkun qui, à Alpi Kabbalah, est très intéressant, Alpi Sod, qui n'est autre que le retour de l'Arche d'Alliance, car Moshe est la réincarnation de Noach. Moshe, c'est la réincarnation de Noach. Belachen, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, va se retrouver, comprenant en lui toutes les âmes du peuple d'Israël en train de pleurer sur le Nil. Et il a la voix d'un Nahar. Nahar, ça veut dire d'un jeune. De là, on apprend que déjà à cette époque-là, les enfants qui naissaient n'étaient pas comme les enfants qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus matures, beaucoup plus, parlaient beaucoup plus vite, étaient capables de s'exprimer. Et déjà bébé, Moshe Rabbeinu pleurait comme un Nahar. Il y a plusieurs explications qui sont données. Une d'entre elles, Nahar veut dire un jeune homme. Okay. Une d'entre elles, c'est que Moshe pleurait toutes les larmes des enfants d'Israël dans sa gorge, à lui. Moshe Rabbeinu Alav Hashalom arrive vers le palais de Pharaon, et là-bas, Batia, accompagné de dizaines et de dizaines de servantes, va dans le Nil. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans le Nil? Elle vient se convertir au judaïsme. Il y en a qui disent qu'elle avait la lèpre, et qu'elle est venue se soigner, se soulager de sa lèpre. Là-bas va se passer un grand miracle, qu'on utilisera dans la Gada de Pessah, Beyat Hazaka, c'est les 10 plaies, ou Bizro Anetouya, d'un bras étendu. De quel bras Dieu parle-t-il? Eh bien, il parle du bras de Batia, mère adoptive de Moshe, fille de Pharaon, qui va vouloir attraper le berceau de Moshe, et qui va avoir un miracle où sa main va s'allonger de plusieurs coudées. Il y a une marque loquette à savoir combien de coudées, il y en a qui disent 16 mètres, il y en a qui disent 8 mètres, il y en a qui disent, c'est pas important. Ce qu'on sait, c'est qu'il va se passer un miracle, c'est que sa main va s'allonger. C'est-à-dire, vous y croyez pas, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est ce que dit le Midrash. Et elle va attraper ce berceau. Quand elle va attraper ce berceau, il faut savoir que Batia, Aléa Shalom, cette grande sadéquette, on l'appelait Batia qui veut dire la fille de Dieu. Il y en a qui disent, parce que Pharaon se prenait pour Dieu, il l'appelait Batia. Il y en a qui disent que c'est le nom de sa conversion, qu'avant elle ne portait pas ce nom-là. C'est Nefertiti, Nefertari, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la Torah, on va lui donner ce nom Bat Yayutke, la fille de Dieu. Vous vous rendez compte, Rabbi Ishmael ben Elisha est appelé le fils de Dieu, Rabbi Yitzhak ben Berdichev est appelé le fils de Dieu. Et il n'y a pas des millions qui ont été appelés. La fille de Dieu, Bat Ya, la fille d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout. Elle était princesse d'Égypte. Et elle a voulu adhérer au judaïsme parce qu'elle voyait le peuple d'Israël qui souffrait. Elle a voulu s'identifier à eux. Elle a dit, moi je veux être comme ce peuple. Et en secret, elle est partie se convertir. Étant donné qu'elle est partie se convertir et qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, Izarta le Hametz et Moshe Rabbeinu d'éduquer, de recevoir Moshe Rabbeinu chez elle. Et là-bas, il va se passer quelque chose de bizarre, c'est que Moshe va accepter de venir dans ses bras. N'étant pas enceinte, elle ne pouvait pas l'allaiter. Et donc, Batia va demander à une nourrice égyptienne de bien vouloir donner son sein, qui était donc elle-même venait d'accoucher, à cet enfant qui venait de l'être. Ce qu'il faut savoir, c'est que Myriam, Aléa Shalom, suivait Moshe à travers les roseaux, à l'image de la Shekhina, qui se cache qu'on ne voit pas, mais qui nous surveille dans tout ce que nous pensons, disons ou faisons. Et voilà que Moshe Rabbeinu va très vite grandir dans la maison, sur les genoux de Pharaon. Un événement s'est passé le jour où il a tété du sein de cette nourrice, où la première goutte de lait qui sortait de son chad, de sa poitrine, s'est posée sur la lèvre de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va refuser de tourner sa tête, il ne va pas l'avaler, il va juste tourner sa tête et ne pas boire. Pourquoi? Parce qu'il y a une généralité qui dit « Kol ayotse mina tame tameu » Tout ce qui sort de l'impur est impur. Moshe Rabbeinu de manger strictement kasher. Cette femme ne mangeait pas kasher. Son lait n'était pas kasher. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu, en tant qu'enfant et que bébé, a refusé de boire de ce lait-là. Seulement, cette goutte est venue sur sa lèvre. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il était gêné. Il était très gêné. Puis voilà qu'à l'âge de 2 ans, le Midrash, comme le dit Rabbi Eliezer ben Hanokanos, nous raconte que Pharaon tenait Moshe sur ses genoux. Qu'est-ce qu'avait dit Pharaon, vous vous rappelez? Il faut tuer tous les premiers-nés parce que le Messie, le Machère, viendra d'eux. Nachon, Kujourou, il adore les rigolos de ce monde. Il adore les clowns de ce monde. Tu veux tuer, toi, le Machère? Mais moi, je dis qu'il vit. Toi, tu veux le tuer. Pour qui tu te prends? C'est toi qui vas le mettre sur tes genoux. Tu vas lui donner Neina. C'est toi qui vas lui donner à manger. À propos, Myriam va s'approcher de Batia. Après sa conversion, lui dire, je connais la maman de cet enfant. Et elle a du lait à lui donner. C'est le seul qu'il mangera. Il ne mangera pas et ne boira pas le lait d'une femme impure. Batia va inviter Yocheved. Il faut savoir que Yocheved, la mère biologique et la maman adoptive de Moshe Rabbeinu, vont devenir amis et donner l'éducation à Moshe Rabbeinu, qui ira étudier depuis sa plus grande enfance la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Contrairement au film de Cécile B. DeMille, où il va découvrir à l'âge, je ne sais pas quel âge, qu'il était juif. Mamash Touyot, Bemitzak Banyot. Moshe n'a fait aucune avéra, jamais d'idolâtrie en Égypte. Et donc, Moshe Rabbeinu va téter du sein de sa mère, et à l'âge de 2 ans, alors qu'il était assis sur les genoux de Pharaon, eh bien, il va faire quelque chose d'inattendu. Prendre la couronne de Pharaon, lui enlever de sa tête et la poser sur sa tête. Pharaon va voir les choses comme ça. Bilam, qui était juste à côté, a dit « Il est le Machiar, c'est lui Machiar ». Et là, à ce moment-là, Batia s'est jeté aux pieds de son père et lui a dit « Papa, mais c'est mon fils ». C'est pas le Machiar, tu vois bien que c'est un enfant. Un enfant, il aime tout ce qui brille, c'est des bêtises. Bilam, il dit, alors puisque tu dis qu'il aime tout ce qui brille, qu'on apporte 2 plateaux ici. Sur le premier plateau, ils ont mis des pièces d'argent, des rubis, des diamants, des émeraudes, toutes sortes de pierres précieuses et la couronne de Pharaon. Sur l'autre plateau, ils ont mis des charbons brûlants, ardents, rempli de feu. Et ils ont apporté les 2 plateaux devant Moshe qui n'avait que 2 ans. Qu'est-ce qu'a voulu faire Moshe tout de suite de par sa nature? Faire tomber l'Égypte. Il prend sa main droite pour l'emmener prendre la couronne de Pharaon et Dieu envoie l'ange Gabriel pousser la main et Moshe va prendre le charbon brûlant. Et qu'est-ce que font les enfants en général? Qu'est-ce que font les enfants? Ils mettent tout à la bouche. Il va prendre ce charbon brûlant et se brûler les lèvres. D'où le fait que Moshe Rabbeinu deviendra bègue. Il s'est brûlé tout simplement les lèvres. Chazal nous disent, pourquoi Dieu laissait faire une telle chose? Si Moshe n'a ni fauté, qu'il est si unique que ça, pourquoi en viendrait-il à se brûler les lèvres? Chazal, ils disent que d'abord c'était nécessaire pour le peuple d'Israël qu'il reste pour l'instant caché, mais il fallait surtout qu'il brûle la goutte de lait qui était tombée sur sa lèvre, car c'était la seule façon de la cachériser. Et étant donné que Moshe devait réserver ses lèvres pour la pureté absolue du don de la Torah et de donner la Torah aux enfants d'Israël, Torah Tzivalanu Moshe Morachak Latiakov, tant qu'il y avait cette tache de goutte de lait qui venait d'une femme impure, il ne pouvait pas donner la Torah. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a laissé l'ange lui prendre ce chardon brûlant, et Moshe s'est brûlé la lèvre, mais en réalité, il s'est sanctifié le lieu de cette tache de lait qui était impure sur ses lèvres pour pouvoir donner la Torah aux enfants d'Israël. L'une des choses qui a le plus dévoilé et révélé le pourquoi du choix de Moshe aux yeux d'Hachem a été son empathie pour la douleur des enfants d'Israël. Moshe avait tout à la maison. Il vivait dans les palais de Pharaon. Il avait son propre palais. Il avait tout ce qu'il demandait. Il se faisait lui-même la cacheroute, lui-même. Tout ce dont il avait besoin, il l'utilisait pour lui. Il n'avait besoin de rien. Mais Moshe jeûnait chaque jour. Il était triste. Il observait par la fenêtre et voyait ses frères souffrir. Il étudiait avec les Lévi'im dans les Batei Midrashot, en secret de Pharaon, pour apprendre la Torah et les Mitzvot chaque jour de sa vie. Et toutes les nuits, dans Saïd Bodedout, Moshe Rabbeinu ne cessait de pleurer pour que la Géoula vienne sauver les enfants d'Israël. Et il partait tous les jours les voir. Dès qu'un soldat se retournait, il lui donnait de l'eau, il lui donnait du pain, il lui donnait ce dont il avait besoin. Il essayait de régler les problèmes de façon le plus minutieuse, mais en même temps le plus caché, car le moment de la Géoula n'avait pas encore sonné. Jusqu'au jour où il a vu un homme juif frappé par un Égyptien, car cet homme-là voulait lui prendre sa femme, patati patata, tout le monde connaît l'histoire. Et Moshe Rabbeinu va tuer l'Égyptien. D'un coup de poing, d'un coup de râteau, du nom de Dieu, plusieurs opinions sont données, comme le rappelle Rashi. Et il va enterrer cet Égyptien. Il sera vendu par ses propres frères. Datan et Aviram iront le vendre. Et Moshe Rabbeinu essaiera de fuir. Seulement, il sera très très vite rattrapé. Et il sera torturé. Il sera emmené dans les geôles de l'Égypte, face à Pharaon, et ils viendront pour lui couper la tête. Mais Dieu fera un miracle et le cou de Moshe Rabbeinu va se transformer en marbre, comme ce fut le cas de Yaakov avec Esav quand il voulut le mordre. Alors il va apporter un autre bourreau pour faire quelque chose de plus grave encore. Qu'est-ce que va faire Hachem ? Il va faire en sorte que le bourreau perde lui, qu'il n'entende plus. Et il va dire, je comprends pas, qu'est-ce que tu dis ? Alors ils vont faire venir un autre bourreau. Et lui, on va lui dire, il va entendre, seulement pour aller chercher les ustensiles de torture et de mise à mort, Dieu va le rendre aveugle. Alors ils vont faire venir un troisième bourreau qui va demander qu'est-ce que Pharaon attend de lui, mais Dieu va le rendre muet. C'est ce que dira Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu au Arsinaï. Qui a rendu l'homme aveugle ? Qui l'a rendu sourd ? Qui l'a rendu muet ? N'est-ce pas moi, dit Hachem ? De quoi tu perds, Moshe Rabbeinu, d'aller libérer mon peuple ? Faisant allusion à ce miracle que Moshe avait vu de ses propres yeux là où il était. Et Pharaon s'est rendu compte très rapidement qu'il ne pourrait rien faire contre lui. Alors il passa de l'autre côté, ouvrant le désert à Moshe en lui disant « Pars d'ici et ne reviens plus dans ce pays ». Moshe s'en alla. Seulement, contrairement à ce que les gens pensent, il n'est pas parti à Midian. Il est parti dans un autre pays qui était le pire ennemi et la deuxième puissance du monde à cette époque, l'Éthiopie, le pays de Kouch. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, en arrivant dans ce pays, va découvrir une guerre incroyable, une guerre interne. Le roi de Kouch, qui connaissait très bien Moshe Rabbeinu en tant que prince d'Égypte, était à l'extérieur de son palais et de sa muraille avec toute son armée, car son conseiller, le fameux pourri qu'on appelle Bilam, qui avait quitté Pharaon, regardez ce que c'est un homme ingrat, il était conseiller chez Pharaon, on lui a proposé plus d'argent chez les ennemis de Pharaon, et il est parti travailler pour eux. Ça s'appelle de l'ingratitude. Chez les ennemis, celui qui faisait la guerre pour une histoire de territoire en Égypte, où est-ce qu'était la limite qui sera définie en fin de compte par les grenouilles et les sauterelles qui vont définir les limites du pays d'Égypte, d'où le shalom sortira enfin. Mais à cette époque, la guerre existait encore. Et quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Éthiopie, il a vu là-bas le roi. Le roi l'a reconnu, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'ai fui l'Égypte. L'Égypte ne sont plus mes amis. » Alors Moshe a dit au roi « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit « Malheureusement, j'ai pris comme conseiller ce fameux sorcier qu'on appelle Bilam Arasha, ce Bilam, et qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il m'a donné une stratégie de partir en guerre, alors qu'il fomentait derrière mon dos de prendre le pouvoir de mon royaume. Il a vidé les caisses de l'argent que j'avais pour les donner aux gardes à l'intérieur, aux ministres, il les a tous achetés, et maintenant on ne peut pas rentrer. » Moshe va dire au roi d'Éthiopie, mais je ne comprends pas. Si tu veux rentrer, il faut rentrer par les douves. Ah, il y a des douves, il y a des tunnels, il faut rentrer par là-bas. Il lui dit, mais tu crois qu'on n'a pas essayé ? Le problème, c'est que Bilam, pendant que nous n'étions pas là, a fait chercher par tous les soldats internes de mon royaume que des scorpions, que des serpents extrêmement venimeux. Et donc, chaque fois qu'on a envoyé des soldats pour passer par les douves, eh bien, ils ne sont pas revenus. Et le peu qu'on a pu retirer avec des cordes était mort, piqué par des aspics, par des mambas, toutes sortes de serpents extrêmement dangereux. Qu'est-ce que va dire Moshe ? Il lui dit, tu me laisses t'aider ? Il lui a dit, fais comme tu veux. Et il donna un ordre aux soldats en leur disant, fabriquez des cages, des grandes cages. Et puis voilà que pendant 2 semaines, toute l'armée du roi d'Éthiopie vont capturer, attraper tous les rapaces qu'ils trouveront là où ils iront. Et ils en ont ramassé, grâce à la bracha de Moshe, des milliers. Qu'est-ce que va dire après Moshe Rabbeinu ? Apportez les cages devant les douves et pendant 1 semaine affamés, ils vont ouvrir les portes des cages où tous les rapaces vont foncer dans les douves, dans les tunnels. Et bien entendu, de quoi ils se nourrissent ? De serpents. Ils ont la technique, ils ont la protection nécessaire de leurs plumes pour ne pas être mordus. Et ils vont dévorer absolument tous les serpents que Bilam avait, par sa sorcellerie et par son stratagème, mis en place. Quand Bilam va voir une chose pareille, il en voudra une deuxième fois, il reconnaîtra que ce sera Moshe Rabbeinu, et il prendra la fuite pour aller justement à Midian et à Moab. Là, on le retrouvera plus tard. Quand le roi va rentrer, exténué par la fatigue, la morsure du soleil, et sur le point de mourir, il va demander à Moshe Rabbeinu, le temps que son fils, qui était encore un jeune enfant, grandisse, de prendre les rênes du pouvoir de l'Éthiopie. Et Moshe Rabbeinu, chers amis, va devenir roi d'Éthiopie pendant 40 années de sa vie. 40 ans, il sera, dit le Midrash, roi d'Éthiopie. En formant Bezrat Hashem, ce nouvel enfant, et après quoi, le roi d'Éthiopie lui proposera sa fille. Et comment s'appelait sa fille ? Le Midrash nous dit Séphora. Tsipora était le nom de la fille du roi d'Éthiopie, contrairement à la deuxième Tsipora qui deviendra la femme de Moshe Rabbeinu, qui n'est autre que la fille de Yitro, la 7e fille. Il y en a qui disent c'est une fille adoptive, il y en a qui disent c'était vraiment sa fille, peu importe. Plusieurs déotes. Et la reine, Moshe Rabbeinu va quitter l'Éthiopie après 40 ans, couronne, ainsi de suite, et instaurer la paix et les 7 lois noachides à cette nation d'Éthiopie. Il quittera l'Éthiopie pour aller à Midian. Et c'est seulement 40 ans plus tard qu'il ira à Midian, où là-bas il rencontrera les filles de Yitro, au nombre de 7, qui se faisaient agresser par les bergers. Et pourquoi ils se faisaient agresser par les bergers ? Chazal nous dit, parce que Yitro se posait la question sur le Dieu réel qui créa l'univers. Et étant donné qu'il se posait des questions et qu'il commençait déjà à arrêter un peu l'idolâtrie, eh bien les bergers avaient mis en quarantaine Yitro et ses filles, ce qui fait qu'ils les empêchèrent de pouvoir breuver leurs troupeaux. Moshe va venir corriger une fois pour toutes les bergers qui vont être remis à leur place, et les filles de Yitro vont pouvoir donner à boire à leurs troupeaux. Quand ils vont voir que c'était un homme qui traversait le désert et qui était fatigué, ils vont lui proposer de venir à la maison. Et là, va se passer un événement encore plus tragique pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après avoir traversé ce désert jusqu'à être arrivé à Midian, va se retrouver face à Yitro. Yitro lui dit, mais tu n'es pas le prince d'Égypte. Il lui dit, si, j'ai eu un problème avec eux, et donc, pourquoi ? Les 7 lois noachides, parce que les 7 lois noachides existent depuis l'époque de Noach, donc bien avant Moshe Rabbeinu. Et le monde était géré par les 7 lois noachides. Les non-juifs, comme les juifs, étaient assujettis aux 7 lois noachides. Et après leur Sinaï, pour les juifs, 613 mitzvot plus 7 des rabbins. Vélachen, Moshe Rabbeinu va se retrouver face à Yitro. Qu'est-ce que va faire Yitro ? Il va ordonner qu'on arrête Moshe Rabbeinu et va le jeter en prison pendant 10 ans de sa vie. Il y a 50 ans qui sont partis de la vie de Moshe Rabbeinu, 40 ans roi d'Éthiopie, puis maintenant 10 ans en prison. Tsipora, qui avait une âme extrêmement élevée, qui était haute de stature comme Moshe, la Gemara dans Shabbat nous dit que la grandeur de Moshe faisait 5 mètres, 10 coudées. Et Tsipora était très grande aussi selon les Parchanim, puisqu'on dit que Moshe avait pour l'équivalent sa femme. Tsipora était comme Moshe Rabbeinu, mais Kol Aprinot. Elle était Kedosha, elle était pure, elle était. Et Tsipora va nourrir Moshe Rabbeinu. On l'appelait Tsipora Mishon Tsipor, qui veut dire un oiseau. Elle était très légère, extrêmement pudique, extrêmement effacée, et puis elle envoyait comme ça, constamment, à manger à Moshe. Jusqu'au jour où on entendra une voix qui sortit du puits. Et puis, Yitro dit, c'est bizarre, mais il y a quelqu'un dans le puits encore ? Et Tzipora lui dit, je crois qu'il y a Moshe, que tu as jeté il y a 10 ans en arrière. Il dit, mais c'est pas possible, comment elle peut vivre après 10 années dans un trou noir au fond, à 20 mètres de profondeur? Ils vont lui envoyer une corde, Moshe va monter en haut, et Moshe va être enfin accueilli par Yitro pour devenir son beau-père, chez Nehemar, Bo Tochal Lechem, viens et mange du pain. Le pain est considéré comme étant la kala, comme c'est marqué, tu ne mangeras pas le pain de la fainéantie, celle que ta femme te fait. Le pain est une allusion à la femme. D'accord ? Et la reine, Moshe Rabbeinu va épouser Tzipora et s'occuper une fois de plus des troupeaux de Yitro. En allant les faire paître, un mouton va s'échapper. Moshe va lui courir derrière à l'image d'Abraham qui courait après le veau. Et puis quand il comprendra que le mouton l'avait emmené vers la montagne du Sinaï, il y découvrira Kadosh Baruch Hu, qui lui demandera d'ôter ses chaussures et d'écouter la mission qui lui était attribuée, pour laquelle il était venu au monde. Faire de grands prodiges au nom de Dieu, faire connaître le nom d'Hachem à travers les 10 plaies, corriger l'Égypte du mal qu'il a fait à Israël, sortir ce peuple pour la première fête du judaïsme, la fête de Pessah, à travers les 2 mitzvot, celle de la Brit Mila, le sang, et celle de l'agneau pascal qu'on appelle le Korban Pessah, pour lequel nous allons, Baruch Hachem, sortir, rencontrer la mer Rouge, Bezrat Hachem, pour vivre ce miracle incommensurable de ce qu'on appelle Shevi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, pour ensuite manger de la manne, nous purifier de l'intérieur, boire de l'eau du puits de Myriam, devenir en bonne santé, Bezrat Hachem, les aveugles vont retrouver la vue, les sourds retrouver l'ouïe, les muets retrouver la parole, ceux qui n'avaient pas de pieds vont retrouver leurs pieds, tout le monde sera complet pour recevoir la Torah qui temima, Torah Tachem temima. Et Meshivat Nafesh, la Torah étant intègre, ne manquant rien en elle, elle est capable de rendre intègre celui qui l'étudie. Et ainsi, Moshe Rabbeinu Bezrat Hachem deviendra leader du peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, pour atteindre ses 120 ans, où il mourra sur la montagne de Nevo, enterré juste en face de Baal Peor, pour renaître de nouveau le Zayin Be'adar. Car il est né le Zayin Be'adar, il est mort le Zayin Be'adar, il est revenu à la vie le Zayin Be'adar. Certains disent qu'en réalité, après être mort au Har Nevo, Moshe Rabbeinu a été enterré par Dieu lui-même, Benishikat Shrina. Il aurait été emporté, en réalité, en secret, en catimini, dans Maharat Amarpella. Certains disent qu'il est enterré là-bas, disent que non, peu importe, quoi qu'il advienne, Moshe Rabbeinu, car évite Am Israël, l'Ikdushato. En d'autres termes, vous avez compris qu'on doit tout à Moshe Rabbeinu, notre sortie d'Égypte, ses enseignements, la Torah qui nous a amenés, la reine, et un minhag de jeûner la moitié de la journée du mois de Hadar, il y en a qui font un tikkun en l'honneur de Moshe Rabbeinu, et il y a une grande mitzvah d'étudier toute la journée en l'honneur de Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, puisque Moshe Rabbeinu n'a pas été que celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, mais sera aussi celui qui nous libérera chez Neymar, comme c'est marqué, Hagoel Arishon, Hiye, Hagoel Aharon. Le premier libérateur sera aussi le dernier libérateur. En d'autres termes, si Moshe n'est pas rentré en son temps, en Eretz Israël, c'est parce qu'on l'attendait dans notre temps à nous, pour qu'il rentre, pour nous faire sortir de la galoute intérieure de chaque juif, mais surtout aussi géographiquement parlant, la galoute dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, à travers tous les pays, le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, pour la Teshuvah en Eretz Israël, pour le Dieu d'Israël, pour la Torah d'Israël et pour la Géoula du peuple d'Israël. C'est bien ce soir, si vous pouvez faire une belle Seouda, avec de la viande et tout le monde réuni, avec bien entendu, je parle de la famille, moi, en l'honneur de Moshe Rabbeinu, et puis de raconter à la limite ce que vous avez entendu maintenant, ou d'autres choses si vous avez sur Moshe Rabbeinu. Grand Atzlacha Sarah Richia, Shem Verechota, et c'était pour l'askara de Eliyahu Ben Chana, Srut Moshe Rabbeinu Yegan Alav, Kol Am Israël, Kol Tuv Leitraot.